Bonjour cher Georges Clément, comment allez-vous ?
Pas le mieux possible.
C'est vrai ?
Oui.
Parce que vous êtes à Radio Courtoisie, parce que vous êtes en face de Pascal Payen-Penzeller, ou parce que tout naturellement vous êtes le mieux du monde aujourd'hui dans ce monde un peu en difficulté, puisque nous enregistrons là ce mi-temps d'avril, ce printemps, peut-être c'est un jour de paix aujourd'hui, là, mais c'est pas encore tout à fait sûr. Comment vous sentez-vous dans ce monde, cher Georges ?
Oh, écoutez, là en ce moment c'est très compliqué, mais je veux pas rentrer là-dedans parce que je suis assez éberlué de toutes les réactions que j'entends en France. Parce que s'il y a un pays et un peuple qui doit se taire sur les événements actuels, c'est bien lui, le français. Voilà.
Alors, je vais là être suisse et je vais dire que moi, je ne me tais pas, puisque j'ai la chance d'avoir deux nations. Mais c'est vrai qu'en Suisse, nous ne disons pas grand-chose. Nous avons un tabou en Suisse, que je n'ai pas respecté d'ailleurs, c'est en ce sens que mon père est français et que seulement ma mère qui m'a élevé comme Suisse, c'est à quoi je parle. Et en Suisse, on ne parle pas. On se tait beaucoup et dans un dîner, si vous dites des choses qu'on n'a pas attendu que vous disiez, eh bien vous êtes prié de sortir de table. Comme ça chez nous. Donc au moins, on n'a pas de problème, on se tait en toute saison. Mais on agit à tout moment. Et on vote, et on vote, et on vote. Et alors, vous allez bien, et est-ce que vous allez bien en dehors de toute chose, parce que vous écrivez, parce que vous aimez la littérature, enfin, quel rôle joue pour votre paix intérieure le fait d'écrire ?
Ah ben c'est fondamental, parce que d'abord, j'écris depuis maintenant, finalement, mine de rien, le premier recueil est paru en 98.
Ah, la même année que le mien.
Quand même.
Ouais.
Bah oui, hélas, ça fait 30 ans, bientôt, 28.
Oui, hélas, hélas. Moi, j'aurais dû publier beaucoup plus tôt, mais
Non, mais bon.
Ma coutume n'était pas de publier.
Et par contre, l'œuvre en prose historique, et je le rappelle quand même.
Oui, vous êtes et poète et romancier.
Voilà, oui. J'ai écrit ou commis, c'est comme on veut, 7-8 romans.
Et combien de livres de poètes ?
6 recueils.
6 et 8, 14.
Voilà, plus 2 livres d'articles politiques, puisque je sévissais aussi ici.
Et je sais bien.
Et que ça va...
Rappelez-nous le nom de l'émission, enfin le titre de l'émission que vous animiez ou que...
Ah non, non, j'animais pas, j'étais invité.
Oui, oui, mais vous étiez le plus présent.
Oh, ça devient difficile, tous. Pierre Guillaume, Jean Ferré, souvent.
Notre fondateur.
Olivier Pichon, comment elle s'appelait, Madame Laurent, ou peu importe, Reichmann.
Et puis chez moi.
Ah oui, et puis alors, du côté poésie, Pascal, et à Jean Pocard, Alain Pocard,
pardon, oui, Alain
qui
Pocard.
Me pardonne pour
oui, oui, non, c'est
l'avoir
pas grave,
baptisé
c'est pas grave.
Jean. Qui m'avait invité aussi sur certains sujets, pas forcément la poésie d'ailleurs, peut-être sur un des romans. Voilà, donc j'y étais très souvent et la première émission, c'était en 95. Voilà.
Et venir à la radio et chez vous, un rite, un plaisir, un trac, un moment longuement attendu, parce qu'avec moi on attend souvent, mais... je rappelle que nos précédentes émissions étaient dédiées à des grands auteurs de chansons. Vous aimez beaucoup la chanson, et avec vous, Barbara en particulier,
et
d'autres.
La chanson à texte, comme on disait.
Oui, la chanson à texte. Alors, mais il y a toujours des textes, hein, mais bon, Moi, je suis d'actualité, donc quelle que soit l'époque, même si ma mémoire, évidemment, me porte à me souvenir et ne pas toujours être... Mais j'écoute beaucoup, beaucoup, beaucoup de chansons, à vrai dire, et en toute langue. Mais alors, aujourd'hui même, nous avons devant nous, là, et j'ai devant moi, deux recueils, car vous ne parlez pas que de vous, vous avez la générosité de parler des autres et de vos admirations, et je pense que ça, c'est fondamental, parce que... D'ailleurs, ça m'amène une autre question avant de parler des livres de Geneviève de Ternant et de Monique Diffrane. Vous avez beaucoup lu avant d'écrire, c'est lire, ou c'est l'histoire, ou c'est la pulsion ?
Ah non, la poésie, c'est la pulsion. Ça ne peut pas être autre chose. J'avais envie, ça venait, et j'ai dû écrire les premiers poèmes, j'avais 16 ans. Mais bon, c'était en Algérie, il y a eu les événements... comme on disait dans le temps, qui nous ont précipités sur les bateaux. Et donc, d'autres chats ont été affouettés lorsque je suis arrivé en France à 18 ans. Et c'est revenu. 18 ans,
mais
pile.
Il se trouve que la précédente émission, là, eh bien, j'ai interviewé Victoria Coronakis, qui est venue d'Athènes à 18 ans. Sans vous interroger sur votre âge, je vais vous le demander. À 18 ans, vous aviez 18 ans en quelle année?
1962.
Eh bien, vous êtes arrivé comme Victoria Coronakis en 62.
En 62.
Voilà, c'est une année qui nous
est... Le 25 juin 62.
Voilà.
C'est très précis.
Et vous étiez là parce que vous quittiez l'Algérie ?
Ben, bien sûr.
Voilà. Et alors, qu'est-ce que vous a fait, d'ailleurs ?
Mon père a eu l'intuition de nous... Bon, tout le monde s'attendait à des événements, bien sûr. Mais mon père a eu l'intuition... Ah, pardon. Non, c'est rien. Oui. De nous faire partir le 25 juin, c'est-à-dire avant l'indépendance, elle était le 1er juillet. Et c'est bien parce que nous étions sur le port de Toulon, enfin moi j'étais sur le port de Toulon avec d'autres amis du même type, dont des pêcheurs sur leur chalutier.
Oui.
Et le 5 juillet, à Oran, nous avons eu 2000 morts.
Ce qui est...
Voilà. Donc il a eu une intuition. On savait qu'il y avait des risques, mais là, à ce point-là, c'était difficile de l'imaginer.
Alors, on a parlé de l'Algérie, mais la question que je l'avais posée, puisque je crois que l'une des bonnes actions que j'ai pu mener, c'est avec mes camarades, on allait à Orly recevoir les familles, et c'était très émouvant, je dois dire. Voilà, à l'époque, je portais
Parce qu'à Marseille, on ne faisait pas ça.
Mais je sais.
Voilà. À Marseille, on attendait les familles se protègent dans les porches, parce qu'il y avait quand même du soleil en juillet ou août, et on leur jetait des seaux d'eau.
Oui, c'était pas pareil. Alors,
non,
vous n'avez...
c'est pas pareil.
Voilà, presque pas à répondre à ma question, j'allais dire, que vous a dit la France en arrivant, vous dites les seaux d'eau. Mais le paysage même de cette côte d'Azur, qui n'est pas semblable, bien sûr, à l'Algérie que vous avez connue, mais malgré tout, vous étiez dans un port, Oran, un port espagnol, vous arriviez devant, dans un port anciennement grec, enfin phénicien, enfin peu importe, Massilia, et il se trouve que je suis très lié à Marseille, où j'ai une de mes filles, et puis il se trouve que depuis peu, je suis très très proche des Arméniens de Marseille, qui sont près de 100 000. Près de 100 000.
Oui, Marseille, pour les Arméniens, c'est un port aussi.
Absolument. Et alors, vous êtes resté dans ce port, ou vous étiez arrivé à plus ou moins bon port, et vous êtes rentré dans la France de l'intérieur ?
Non, ça a été des va-et-vient, c'est très compliqué. Vous savez, l'exil est compliqué.
Vous vous sentez toujours exilé ?
Ah oui, toujours.
Je l'ai senti, ça, chez vous.
Ah, toujours. Et je dirais que j'ai eu une période... alors, je passe sur la période d'adaptation, mariage, travail, professionnel... Et quand j'ai commencé à ressortir la tête de l'eau de cette quotidienneté, c'était en 90 à peu près. J'ai commencé à écrire d'ailleurs à ce moment-là un certain nombre de pages sur l'Algérie, puisque 7 de mes romans en parlent.
Je le sais.
Et j'ai fait un livre sur l'histoire de l'Algérie, de la guerre d'Algérie, pardon, excusez-moi.
Oui.
Et oui, parce que l'Algérie, c'est autre chose, l'histoire est différente. Et là, j'ai commencé à mettre sur le papier ce que je ressentais, que je pensais, et à écrire de nouveau de la poésie. Et à ce moment-là, me suis lancé dans l'analyse politique et surtout le militantisme, mais au sens des idées. Et c'est ici que ça s'est passé pour moi. J'ai cru. J'ai cru, comme on avait cru, nous, en 62, que les Français étaient comme ça, c'est-à-dire on avait voté pour nous mettre dehors de nos départements, il faut quand même dire les choses comme elles étaient, c'est pas, parce qu'ils ne savaient pas. Alors on a fait ce qu'il fallait pour qu'ils sachent. Eh bien, là, on a fait la même chose, à Radio Courtoisie ailleurs, pour qu'ils sachent. Ben moi, je m'aperçois qu'ils savent toujours rien. Ils ne savent toujours pas qu'ils ont perdu une prépondérance mondiale. Que s'ils l'ont perdu, c'est de leur faute, car ils ont voté pour ça et ils ont voulu ce qu'ils ont. Mais qu'ils continuent à se permettre de dire au chef d'État, au pluriel, qui agissent, et un chef d'État qui agisse et qui est souverain, il est en effet quelquefois... Et c'est son devoir de prendre les armes, si le devoir d'un chef d'État n'est pas celui-là, lorsqu'il estime à tort ou à raison, ça c'est une autre paire de manches, on peut se tromper sur l'objectif,
oui, oui.
Mais sa fondamentale, son fondamental devoir, c'est d'agir, s'il le peut, s'il en a les moyens, pour éviter des catastrophes futures. Eh bien, les Français, non, pourvu que j'ai mon pétrole, voilà. Et ce qui se passe, oui, chez les autres, ils s'en moquent. Qu'il y ait eu, parce que moi, l'Iran, pour revenir à quelque chose, je l'ai vécu très mal en 78. Je me rappelle toujours, j'étais en train de rendez-vous commerciaux à droite, à gauche, c'était mon métier. Et dans la voiture, j'attendais un rendez-vous, j'étais à Rennes, sur le parking de la gare, et Khomeini est arrivé. Et moi, je savais que le mal arrivait là-bas. Ouais, je le savais forcément. Un jour, nous avions eu une conversation à trois.
Oui.
Entre amis. Un chrétien libanais, un israélien et moi. Et on parlait des affaires du monde. Et on s'est regardé. Vous savez, on peut leur dire ce qu'on veut ici autour. Ils ne comprennent rien. Ils ne veulent pas l'entendre. Ils ne veulent pas l'entendre. Et ce qu'on fait, ce qu'on dit, et où on pérore, ça ne sert à rien.
Bah ici,
voilà, donc c'est tout ce que je voulais dire.
On va essayer.
Là,
puisque...
maintenant, je suis revenu à la poésie et à la littérature.
J'entends
revenu
bien. J'entends
complètement. Il n'y a que ça qui peut sauver...
Votre vie.
Ma vie, oui. Enfin,
et justement, ici, on n'est pas là pour entendre, on est là pour écouter.
Oui.
Et vous avez apporté là deux recueils de deux poétesses, pardon. Et je voudrais lire, avant que vous ne repreniez la parole, un extrait du Cyprès à l'Olivier, parce que finalement, nous mm-hmm. sommes toujours dans le sud, mm-hmm. de Monique Diffrane, dont vous direz un mot après,
oui.
et particulièrement ce poème, puisque vous avez délivré à l'instant un message, qui s'intitule « Le message de l'Olivier » et qui a été écrit en 1956, et qui est signé de Agrigent Tipaza.
Oui, Tipaza.
Ce message de l'Olivier qui me paraît très beau. Quand sur la mer étale, horizon aboli, le ciel s'est étendu pour l'étreinte évoquée, sourd du chaos de pierre et du marbre poli, l'appel illimité des colonnes tronquées. La dune d'épis mûrs roule en vagues de vie, un assaut moutonnant au temple de Cérès. Un blanc tintement court et l'une à l'autre lie les chèvres d'Agrigente aux cornes d'Aloès. Ancré dans le sol qui s'évade, l'olivier torde un siècle noueux sur le socle dorique, et la sole des parfums que tissent les lauriers apporte au long des ans l'hommage héroïque. Vers l'autel, tout doré de ses ferveurs anciennes, convergent les reflets des échos rassemblés. La vie émeut encore la terre qui fut sienne, quand la chair était libre et nue au sein des blés. Écoute silence et nos pas sur la route. Seuls comme les premiers, seuls comme les derniers, nous marchons sur le temps par-delà sa déroute. Et si rien ne survit du monde renié, la nuit qui coulera au travers des espaces chaudes des longs désirs qui troublèrent les cieux, pendant l'éternité qui prendra notre place, brillera sans gémir à la face de Dieu. Ce poème est admirable et me pose la question suivante, et que je vous transmets, cher ami. Qui était Monique Diffrane ?
Ah oui, je pense qu'il faut le dire, parce que c'était une grande dame, enfin c'est mon sentiment en tout cas. Monique Diffrane est née à Autun. C'est pas anodin pour elle, car Autun c'était Bribract, et c'était la capitale d'une certaine façon, des Éduins.
Exact.
Et donc, romains. Parce que quand on y va, ils ont beau être gaulois, ils sont romains. Donc, elle est née là, d'un père russe. Mais alors, pas un russe blanc, mais d'un russe venu pour la Première Guerre mondiale en France et qui est resté, donc, et qui était médecin. Donc ça, c'est son origine de paternelle. Sa maman, elle ne m'en a jamais parlé beaucoup, mais je suppose qu'elle était d'Autun. Donc, son cœur de cœur, c'est Rome. Comme moi, d'ailleurs. C'est pour ça qu'on a des atomes crochus. Et il se trouve que Monique a été donc confrontée à la guerre de 1939, enfin à la Seconde Guerre mondiale. Elle avait à peine, elle était née en 1925, me semble-t-il, je ne dis pas de bêtises peut-être, ou 24, au 24. Et elle était confrontée à un âge de 16 ans, quoi, hein, 16 ans. Et pour cela, elle a fait, enfin bref, je ne veux pas rentrer dans tous les détails, mais c'est une... Et quand la guerre a fini, elle s'était mariée avec un jeune homme qui partait à la guerre, qui probablement était amoureux d'elle, elle non, mais qui ne voulait pas lui refuser le mariage, mais lui a fait signer un document comme quoi il n'y aurait pas de relation entre eux et que si, tenté, il revenait vivant, il y aurait séparation. Et tout ça a été fait.
Étrange.
C'est étrange, n'est-ce pas? C'est tout ce que je peux en dire, ce qu'elle m'en a dit. Non, mais c'est pour...
Oui,
savoir qu'on n'est pas devant le banal.
On est devant une forme de mystère tel que vous l'établissez.
Oui, bien du mystère. Donc la chose s'est faite, il y a eu le retour, Dieu merci pour ce garçon, hein, qui d'ailleurs était très bien avec elle sur le plan des promesses, et elle a fait annuler son mariage, mais un peu plus tard, lorsqu'elle a rencontré, alors pour le coup l'amour de sa vie, qui était Henri Irisou. Puisque son nom de femme mariée, c'est Monique Irisou. Et son mari, c'est Henri Irisou. Henri Irisou, alors lui, a été un grand commis d'État français, inspecteur des finances, etc.
Oui, oui.
Il a été directeur de cabinet d'Antoine Pinet quand il était président du Conseil, puis quand il fut ministre des Finances du général de Gaulle en 58, 59. Donc, lui, Henri Irisou est un homme important. Et il était à l'époque chargé de rétablir la politique de l'énergie dans toute l'Afrique du Nord. Parce qu'après la guerre, il a bien fallu
bien
reprendre.
Bien sûr, bien
sûr. C'est là que Monique l'a rencontré au cours d'un voyage qu'elle avait fait. Et l'amour faisant le reste, n'est-ce pas, on s'est retrouvés. Là, elle a demandé donc l'annulation de son premier mariage à l'église, ce qu'elle a obtenu. Bien, c'est donc pas banal. Mais ce qui était fondamental, c'est que elle s'est retrouvée... Alors, il y a des poèmes là de 1940, parce que...
J'ai vu, bien sûr.
Ouais, pour elle, la partie 39-40 a été terrible... Sûrement pour beaucoup de Français, certes, hein. Mais là, elle le fait, elle l'écrit.
Oui, en particulier l'autre retour de cendre.
Ah oui, parce que l'autre aspect de Monique, et qui est le mien aussi, on ne sait pas. Un jour, on s'est dit qu'on était frères d'esprit, et je crois que c'est vrai. C'est une admiratrice de Napoléon, et j'en suis un.
Donc, ce n'est pas mon cas, mais...
Non, on ne va pas se disputer là-dessus. Je vais vous dire, je m'en moque, et lui, Napoléon aussi.
Donc, sûrement.
Donc c'est parfait, lui est dans l'histoire, il est l'homme le plus, sur lequel on écrit le plus dans le monde. Il y a un livre sur lui tous les jours.
Oui, je sais ça.
Oui.
Ça ne m'impressionne
pas.
Et
même des Chinois et des Japonais sont intéressés.
Sur Napoléon
le premier.
Sur Napoléon, intervention de notre ami qui assiste à notre enregistrement.
Et je continue et je termine. Et donc, le retour des cendres de l'Aiglon, ordonné par Hitler lors de son passage à Paris après l'armistice, a été pour elle un crève-cœur. Elle en a fait un poème important, long en tout cas, mais important. Et c'est pour vous dire.
Oui, elle écrit dans ce poème, dans la dernière strophe, les vautours sont vainqueurs en cet hiver de mort.
Oui.
Ils ont tout profané, et ton âme et ton corps, Paris entend ce soir, entend le cri des aigles.
Voilà.
C'est ainsi qu'elle écrit ça le 15 décembre 1940.
Voilà, et elle fait aigle et vautour. Que Madame Georges, qui était une comédienne de l'époque, de le Premier Empire, avait dit un jour. Un directeur de théâtre qui critiquait l'empereur. J'abandonnerai l'empereur, le soutien de l'empereur, le jour où les papillons, ils s'appelaient papillons, seront des aigles. Voilà. Et d'ailleurs, pour terminer sur Napoléon,
oui.
Je rappelle que dans le début de son film sur Napoléon, Sacha Guitry fait une scène, alors romancée évidemment, ce qui n'a pas existé, où une dame dit que, oh mais enfin celui-ci, etc. etc. et lui fait dire à... Donc vous allez voir que... a fait dire à Talleyrand, voilà, c'est ça, ça me revient. Vous allez voir, elle va vous dire ce qu'elle aurait fait à sa place, à la fois dans le domaine du droit et dans le domaine des institutions et dans celui de la guerre. Donc, c'est Napoléon, je pense que c'est un sujet qui dépasse les humains, et, comme César ou,
elle
comme,
écrit,
ou comme Alexandre.
Adieu à 1940, le 31 décembre alors, 1940, voilà, et c'est un grand poème que je voudrais faire entendre. Adieu, année terrible, hélas, inoubliable, pénètre dans l'histoire avec toute l'horreur dont tu as inondé généreuse nos cœurs. Adieu, année terrible, hélas. Inoubliable. Ne laisse surtout rien de ton triste cortège, honte et séparation, mensonges et faux espoirs, sanglots et destruction, recul, vêtements noirs. Ah, ne nous laisse rien de ton triste cortège. Va rejoindre là-bas l'année de Waterloo et celle de Sedan. Ton ombre les dépasse lorsque tu les effleures de ta sinistre masse. Va rejoindre là-bas l'année de Waterloo. Que neige et cendre seul pleure sur ta mort. Nous, nous avons versé trop de larmes de honte, et nous n'en avons plus. Rien que l'espoir qui monte, que neige et cendre seul pleure sur ta mort. Mais nous conserverons avec soin ton image pour trouver, malgré toi, le bien au fond du mal. Déjouer tes calculs en maudit et fatal, nous saurons conserver avec soin ton image. Tu ne seras bien mort en 1940 que le jour inconnu de la libération. Pour lui, nous combattrons sans cesse avec passion.
Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.
Nous nous retrouvons avec notre cher Georges Clément après avoir écouté le début de cette pièce de Johann Jakob Walter. Donc nous sommes à la fin du 17e, début du 18e, par l'ensemble Stravaganza, au cœur d'un disque consacré au concert à la cour des Habsbourg. Et je voudrais, cher Georges, avant que nous passions à une autre poétesse que vous défendez, Geneviève de Ternant, dire encore un mot de Monique Diffrane. Ce recueil que j'ai sous les yeux du Suprême Olivier, c'est son seul recueil, parce qu'il est marqué Gallimard, ou elle en a écrit d'autres?
Non, alors, c'est son seul recueil à ma connaissance, mais elle est dans d'autres anthologies, sur d'autres sujets, comme, par exemple, il y a une anthologie qui s'appelle Dieu, que j'ai.
Qui s'appelle
Dieu. Dieu.
Dieu est en lui-même une anthologie.
Non, non, mais l'anthologie poétique, c'est oui, ce que je voulais dire. Et donc, elle est là-dedans avec des poèmes qui ne sont pas là. Et un particulier, elle a eu un autre poème qu'elle a fait dire. Il faut savoir qu'elle a renoncé à écrire,
à être écrivain.
À être écrivain, lorsqu'elle s'est donc mariée, comme je vous l'ai dit, Henri Rissou. Et qu'elle était grand reporter au Figaro aussi, en même temps.
Oui.
Et elle a arrêté parce que, sûrement, on n'a pas épilogué là-dessus, mais je pense que la question à l'époque, c'était de savoir est-ce qu'elle pouvait avoir une vie littéraire importante, et donc publique, à côté d'un homme politique important.
C'était un immense problème à cette époque-là.
Attention, c'est mon analyse.
Mais ce livre, pour en terminer, est préfacé par Daniel Rops. Et c'est assez ému parce qu'il se trouve que dans mes activités dans ce pays, la France, je m'occupe beaucoup des forêts de France. Et ça commence ainsi, l'arbre est proche du mythe. Et tout à l'heure, nous disions, n'est-ce pas, justement, le titre du Cyprès à l'Olivier. Les anciens le savaient, et qui, dans le moindre tronc, dans le plus familier des feuillages, avaient... cru reconnaître des présences ineffables. Eh bien, et savait bien reconnaître des présences ineffables. Et je crois qu'effectivement, c'est important parce qu'aujourd'hui, nous sommes avec autour de nous différents matériaux, mais il y a un peu de bois. Et il se trouve que le bois, aujourd'hui, dans la construction, qui est mon activité principale, il s'introduit beaucoup et que la filière bois en France fait que on n'aura pas forcément toujours assez de bois. On aura assez de chênes pour reconstruire des Notre-Dame, mais le pin lui-même va, manquer. Et il faut se tourner vers d'autres arbres. Mais sans les arbres, que ferions-nous? Et justement, à ce propos, j'ai reçu de notre cher Frédéric Andreux, qui passe très souvent dans cette émission, son dernier livre, Le Retour du Rouge. Il a effectivement une assez grande passion pour ce qui est la nature. Et à propos de cette nature, il écrit ce petit poème que je vais vous lire là, qui est autour de l'arbre, c'est celui qui fait monter et descendre les eaux, n'est-ce pas? Et de la main bleue de l'orpailleur est né le plus beau des ailleurs. L'eau joue sur le piano des rivages, le concerto du paysage. La rivière ouvre son oreille, elle écoute en demi-sommeil. Allongé sur son lit, un vieillard de Lully. Un peu plus tard, un vieillard de Mozart. Et là, nous avons écouté les jeunes airs de l'ensemble Stravaganza. La musique, quel rôle joue-t-elle dans votre vie, cher Georges?
En tant qu'auditeur, parce que je ne suis musicien, énorme, beaucoup, très importante. J'en écoute beaucoup.
Et quelle musique, par exemple, vous venez aujourd'hui à cette émission que nous enregistrons à la mi-avril. Qu'est-ce que vous avez écouté ce matin, hier?
En ce moment, on écoute, je dis on parce que mon épouse aussi,
oui,
après
oui,
tout,
bien sûr.
On écoute beaucoup de concertos de Mozart pour instruments avant. Voilà, mais c'est parce que le disque est sur la platine et qu'on le repasse
Mais
moi, j'aime beaucoup aussi notre grand ami Beethoven, bien sûr, mais elle moins.
Une de mes amies...
C'est amusant, la sensibilité.
Oui. Me disait, toi, tu es beethovenien, c'est vrai que je joue les sonates de Beethoven, parce que Beethoven a une direction. Et elle me disait, toi, tu ne peux pas faire les choses si tu n'as pas une direction. Et, mais par ailleurs, j'aime beaucoup Mozart, mais je ne suis incapable de le jouer bien, alors que Beethoven, je peux le faire, disons, retentir en puissance. Mm-hmm. Et quand je joue la Passionata, alors je pars comme un
mais
fou.
Mais ceci dit, en dehors de... Pour moi, il faut que j'ai un ami vivant qui fait de la musique classique, oui. Mais en composition, hein, je parle.
D'accord.
Hein, Friedrich Lull. Il a fait un requiem pour Vauban qui est passé au moment
du
500e.
Bien sûr, bien sûr.
Sa musique est très belle, mais ça intéresse pas le monde qui l'entoure.
Il est très orchestral, lui, hein, parce que je connais.
Ah, oui, oui, oui.
Je connais très, très bien cette
pièce.
Oui et
non, parce que j'ai
Vauban est très orchestral.
Non, oui, bien sûr, Vauban. C'est un requiem, quand même. Ouais. Mais j'ai ses disques sur... Parce qu'il est en même temps un interprète. Oui. Sur Rachmaninov, etc. C'est un soliste aussi. Mais en composition, oui, vous avez raison.
Alors, nous passons justement à Geneviève de Ternant. Et toujours la musique, puisque son recueil, à l'âge d'homme, c'est, avec un jeu de mots, corne au pluriel, tiret, muse, cornemuse. Alors, j'aime bien, mais je ne suis pas écossais. J'allais dire, chaque année, puisque j'ai une maison près de Dieppe, qui est la maison du débarquement du 19 août 42, le débarquement raté. Bah oui, bien sûr, des Highlanders, eh bien, j'ai la cornemuse qui retentit chaque année devant ma maison, à Saint-Martin, plage. Donc, j'aime beaucoup les muses-cornes et les cornemuses. Qui était Geneviève de Ternant?
Ah, alors, on est dans un personnage différent, bien sûr. Elle est née en Algérie, elle est touranaise comme moi, donc là, la rencontre était naturelle. Bien sûr, elle n'est pas de ma génération, puisqu'elle est des années 30 et moi 44, donc on n'est pas dans la même génération. Et on s'est rencontrés au cours de réunions de Français d'Algérie, dans les années 95, bon, c'est comme ça.
Oui.
Et il se trouve qu'elle était poète, et ça, je l'avais su parce qu'elle était passée à Radio Courtoisie avec le commandant Guillaume, une fois, et ensuite, moi, je l'ai fait passer également avec Didier Rochard.
Ah oui.
Ouais. Et pour sa poésie. Donc, alors, Geneviève est une jeune femme née à côté d'Oran, dans une famille qui avait une ferme. Et elle en parle d'ailleurs, ma maison, etc. Mais elle a eu une vie de femme aussi. Elle s'est mariée, elle a eu des enfants, elle les a élevés, enfin, elle était commerçante, enfin, c'est une touche à tout. Elle avait monté dans la région, enfin à Oran et dans la région, parce qu'elle faisait des tournées, un espèce de musical ambulant qui passait sur des scènes. Donc c'est une touche à tout. Mais c'était un poète. Et
vous avez d'ailleurs préfacé ce livre.
Oui, j'ai fait une préface, à celui-ci.
Oui. Donc,
parce qu'il avait été publié.
Oui.
Et elle m'a demandé. Et moi, je l'ai fait republier à l'âge d'homme.
D'accord.
Parce qu'il se trouve qu'à ce moment-là, je connaissais bien Dimitrievitch.
Bien sûr.
Et Despot, d'ailleurs. Ça s'est pu se faire et ça s'est fait. Je suis bien content.
J'aime beaucoup dans ce livre cet épigraphe de André Suarez qui m'est très cher. Tant que j'en aurai la force et qu'il me laissera la voir, je veux être celui qui ignore. Ignorer, voilà l'indulgence suprême, qui n'abuse pas de son avantage et qui ne force pas le coupable secret à rougir. C'est la discrétion même, cette ignorance-là. Et effectivement, le poète n'a pas besoin de savoir, puisque finalement, la poésie sait pour lui. Donc, elle nous évite la connaissance. Dans ce recueil, un poème qui me touche beaucoup, « Qu'importe pour le rêve ?» La lune ou le soleil ?« Qu'importe pour le rêve ?» Dans la nuit qui revient, Phébus s'attarde encore, accroche à son étoile un rien de poudre d'or jusqu'au petit matin où son destin s'achève. Un nuage, en passant, sa paupière soulève, quand la roucaria se balance et se tord au souffle du mistral qui le glace et le mord en éteignant l'été jusqu'au creux de sa sève. Au poète, il suffit d'un lampadaire au ciel pour saisir l'univers, lui apporter son miel et sa pensée enclose, et pourtant fugitive. L'or, il guette sans trêve, insensible au sommeil, l'attessence de lune ou flèche du soleil, la fulgurance d'or dont il fait sa captive. Il y a une proximité avec Albert Samain, entre parenthèses. Mmh. Je le dis à l'instant, parce que ça fait partie des poètes qui ont enchanté ma jeunesse. C'est un sonnet que nous venons de lire. Avant que vous ne soyez vous-même écrivain, des gens comme elle ont contribué à votre écriture?
Non, puisque j'avais déjà commencé à écrire.
Oui, mais...
Et on s'est rencontrés pour ça.
On peut déjà... Moi, je fais extrêmement attention, étant donné que je fais ces émissions, mais que je pense que je lis à peu près... je lis 3000 livres par an, bon, ce qui est considérable. J'en lis 7 à 8 par jour, pour des raisons professionnelles. Et comme j'ai inventé une méthode de lecture rapide, qui est la méthode Richaudot, je peux lire un livre de 300 pages en une demi-heure, la noter, le mémoriser, etc. Donc je suis un lecteur infini. Et... aujourd'hui plus, parce que j'ai trouvé mon ton. Mais pendant très longtemps, lisant un grand poète, dans les semaines qui venaient, je ne devenais pas, je ne suis pas à la hauteur de ces gens, mais je devenais un peu Supervielle, je devenais un peu Maurice Carême, je devenais un peu tel ou tel. Vous, jamais?
Si, justement.
Ah,
et alors,
là...
J'ai eu un autre ami qui s'appelait Vladimir Volkov, qui est donc lui célèbre, et célèbre dans l'écriture,
bien sûr.
Et un jour on parlait, et je ne sais plus qui, c'est mon épouse qui lui a demandé, mais qu'est-ce que vous lisez? Il lui a dit, non, je ne lis pas quand j'écris. Répond exactement.
Et la réponse, absolument.
Et je suis comme ça, je ne peux plus lire à partir du moment où quelque chose est en cours, parce que, en effet... même les idées de l'autre, mais pas seulement le style, mais le style, c'est terrible.
C'est terrible, oui. Mais alors, oui, vous avez la chance de pouvoir le faire. Moi, qui écris peu de romans, j'en publie un l'année prochaine qui s'appelle Inferno Verde, mais c'est autobiographique, mais j'écris peu de romans, donc je n'ai pas, comme vous, de longue haleine. Comme j'écris un poème par jour, et bien évidemment, et comme je dois lire énormément, y compris pour cette émission, mais pour d'autres raisons, et bien effectivement, je suis constamment dans cette approche. Et aujourd'hui, alors, si je lis trop, de manière trop complice, je me laisse influencer. Si je lis de manière trop lointaine, je ne rentre pas tout à fait dans la communion.
C'est très difficile.
C'est extrêmement difficile. Mais nous allons laisser un tout petit peu la Stravaganza nous rejoindre pour la suite, puisque j'ai choisi de vous faire écouter la deuxième partie, enfin si j'ose dire, nous coupons, c'est ce qui ne se fait pas, mais le morceau en trois parties, la suite de ce que vous venez d'entendre, le concert de chez Azour. À l'opposé de la gaieté de cette pièce dansée, ces poèmes dans la tourmente pour lesquels Elle a eu le grand prix de l'Académie française, enfin le prix de l'Académie...
Non, un prix.
Un prix de l'Académie française. Geneviève de Ternant nous livre le malheur de la fin de notre présence en Algérie. Et en feuilletant ce recueil que je viens d'avoir à l'instant, là devant moi, je vais lire ce poème parce qu'il me rappelle d'autres moments où l'on vient chez vous. Ça s'appelle perquisition.
Ah oui, oui.
Des hommes sont venus, étouffant leur voix haute, mais le bruit de leurs bottes sonnait sur mon cœur nu. Des hommes sont venus sans hargne et pas osés. Leurs mains se sont posées sur les riens ingénus. Dormant au fond de mon tiroir, mon trésor cher et dérisoire, et le linge de mon armoire, moi, je mâchais du désespoir. Ils ont rompu sans y penser la toile tendre et familière que ma main d'amante et de mère, jour après jour, savait tisser. Des hommes sont venus suant à grosses gouttes, et dans leurs yeux le doute contrait l'élan ténu. Je ne leur en veux pas, instrument trop docile des haines imbéciles qui guidèrent leurs pas. Peu sûrs de leur devoir et tentant de sourire, c'était insulte pire à notre désespoir. Des hommes sont venus en uniforme, en armes. Je sais le goût des larmes, du mépris retenu. En fait, vous la connaissiez déjà depuis longtemps quand elle écrit ce livre-là.
Ah non, non,
pas
non,
encore.
Non, non, 1995. Donc là, moi, j'avais 18 ans. Elle était déjà, elle était d'une autre génération. Elle avait fait.
Et quand vous avez lu ça, alors ça vous a parlé, bien sûr.
Bah, évidemment. Et d'ailleurs, je reconnais bien Geneviève, qui avait un caractère très tolérant. Alors, elle se voulait tolérante ou elle était tolérante, c'est toujours un débat chez moi sur les tolérants, mais...
Nous avons, nous, protestants, l'édit de tolérance de 1787,
oui, oui,
mais je n'aime pas le mot tolérance.
Ah, moi non plus, non.
D'ailleurs, c'est une maison en général que ça...
Alors, il y a... Non, mais c'est Valérie, il me semble, qui a dit, la tolérance, il y a des maisons pour ça.
Mais absolument, c'est pour ça que je le rappelle.
Oui, oui, vous avez bien raison. Donc, pour Geneviève, on s'est rencontrés en 95, comme je l'ai dit, mais quand j'ai lu le poème sur poème dans la tourmente, bah oui, évidemment, j'ai vécu ça. D'ailleurs, je les ai mis dans mes livres aussi, les livres sur la guerre, enfin, pas sur la guerre d'Algérie, des romans qui se passent pendant la guerre d'Algérie. Et bien sûr, j'ai mis les perquisitions. Ça a été un moment. On a été, nous, avec papa et maman, perquisitionnés. Par des soldats, pas par la gendarmerie mobile, ce qui était un bien. Parce que la gendarmerie mobile...
Oui.
Bon, sans commentaire. Et...
Moi, j'étais enfant dans le 13e arrondissement de Paris, et on nous envoyait à la garde mobile lors des manifestations, et j'ai des souvenirs d'enfants terrifiés.
Ah oui, 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 bah, c'est exactement ça. Donc là, je le sais, elle est gentille avec eux. Elle dit des choses, mais on a des réalités différentes. On avait affaire quand même à des... C'est terrible de se sentir méprisé, collectivement, s'entend. Parce qu'on n'est même pas lui méprisé personnellement. Quand ils sont venus à la maison, c'était toute la famille, c'était pas moi. Hein. Puis j'étais jeune. Mais qu'un Français peut regarder un autre Français comme ça, dire ce qu'il disait... Ça change l'esprit d'un garçon. Voilà. Je ne peux pas être le même qu'avant la fin de la guerre d'Algérie.
Il y a, avant de conclure notre émission, deux textes de Geneviève de Ternant dans Poème dans la tourmente que je voudrais faire entendre à nos auditeurs. Le premier d'entre eux est « On n'a jamais le droit de se tuer ». On n'a jamais le droit de se tuer, jamais. Il est toujours un cri que seul on peut entendre, une main qu'on doit prendre, une confidence à comprendre, un cœur orphelin pour l'aimer. On n'a jamais le droit d'abdiquer, non, jamais. Seulement de se mettre en sommeil et d'attendre, en étouffant sa plainte tendre. Un jour vient où l'on peut reprendre le fardeau qui vous assommait. On n'a jamais le droit de se tuer, jamais. Et je dédie ce poème à mes 4 enfants suicidés. Mmh. Mmh. Et à moi-même, puisque je suis un miraculé de la même opération. Et il y a ce poème-là qui va nous réconcilier, qui va nous accompagner, si vous le voulez bien, qui est la demande de grâce. Pour tous ceux qui sont morts, ceux qui ont survécu, pour les désespérés, les trompés, les vaincus, je vous demande grâce. Pour tous les mots amers, les mots de désespoir que je n'ai pas rimés, pour ceux qui, comme moi, ont les lèvres serrées sur des mots lourds comme des boîtes et qui ont pu se taire, ou par orgueil, ou par pitié, je vous demande grâce. Pour tous ceux qui ont pu, jour après jour, regarder Dieu en face sans jamais renier ceux qui les ont fait tels, je vous demande grâce. Pour ceux qui n'ont jamais, jamais pu oublier la douceur de l'enfance, l'ardeur et l'insouciance, et qui disent, chez nous, en parlant d'eux, là-bas, je vous demande grâce.
Ah oui, on dit toujours chez nous. Et je voulais juste dire, pour Geneviève, dire une chose, c'est que
Geneviève
pendant la période de la fin de la guerre d'Algérie, celle où l'OS a existé, elle en était. C'est-à-dire qu'elle a fait de la résistance réelle, cachant des gens qui étaient recherchés. Et le pire, parce que c'est ça, là, ces périodes, c'est que son mari aussi, sans le dire à l'autre. Et c'est une femme de résistance. Et cette résistance dans le couple est le secret de chacun sans se le dire. Voilà. Mais je dois terminer. Nous avons résisté. Et c'est une chose qui, moi, m'a construit. On ne peut pas perdre sans s'être battu. Point. On peut perdre après. C'est pas grave. La défaite n'est pas humiliante s'il y a eu le combat. Et le risque, bien sûr, afférent. Voilà.
Je comprends. Et je voudrais, pour donner un peu de grâce à la grâce, vous lire de l'extrait du Sommeiller des Muses, un extrait du recueil de Camille Aubaud, d'une grande amie, qui possède la Maison des Pages à Amboise, qui est la plus vieille maison, qui était la Maison des Pages de Charles VII, maison troglodyte, appuyée à la falaise. Je voudrais dédier à la poésie l'extrait de la chanson numéro 4. Bien sûr, c'est une chanson d'amour et l'amour doit tout couronner. Reçois, reçois, toi, mon étoile, toi, mon semblable, l'ange ténu de corps, l'esprit en cendre, l'énergie de la matière noire, irradie le plaisir d'attirer un nomade au creux de mon désir, qui m'illumine et tue en parlant aux étoiles, berceau de ma déesse et d'Amboise, Isis, voix de l'Égypte, l'envoyage en ce temps où m'enlace le trou noir qui gémit. Reçois ma poésie, mon frère, mon semblable, qui veille sur mes tourments et ma force d'attraction. Le diamant de nos cuisses à l'orient de nos champs. Toi qui gravites ainsi qu'un vagabond. Et j'ai lu ça, c'est un poème complexe, à cause de ce dernier vers. Car n'est-ce pas, cher Georges, que vous gravitez ainsi qu'un vagabond?
Oui, bien sûr.
C'est comme cela que je vous vois.
Est-ce que j'aurais une 30 secondes?
Oui, 30 secondes.
Je voulais revenir à Monique Diffrane.
Premier poète que nous avons évoqué.
Car il y a une anecdote savoureuse, mais qui montre à la fois chez elle la passion, mais chez l'autre, celui dont je vais parler, la gentillesse. Elle était chez Gallimard, une amie, parce qu'elle y travaillait, d'Albert Camus. Albert Camus, à un moment donné, lui avait fait une lettre sur un sujet qu'ils avaient évoqué, et cette lettre, elle a gardé précieusement. Elle en a fait une copie. Puis elle a perdu la lettre originale. Elle en a éprouvé une grande tristesse. Elle est retournée voir Camus en le lui disant et en lui disant « Mais est-ce que vous ne voudriez pas me la réécrire pour avoir votre écriture originale ?» Et Albert Camus l'a fait. Il a recopié sa propre lettre sur la copie pour lui donner un original.
Il n'est que temps de terminer avec la joie de la musique. Et merci, cher Georges. Je reprendrai la parole 2 secondes pour dire notre fameux « Vive la poésie ». Et c'est sur cette gigue, Georges Clément. Et gigue, elle est très gaie. Parce que la poésie n'est pas que tristesse. Elle est d'abord chant. Et elle est d'abord celle qui nous donne la joie de dire, et serez-vous d'accord, vive la poésie ?
Ah bien sûr, vive la poésie, oui.
C'est cette poésie qui fait que vous êtes ici et que vous êtes Georges Clément.
Mais la poésie n'a pas besoin qu'on dise vive la poésie. Elle vit par elle-même.
Peut-être, mais c'est une tradition que je tiens de Jean-Pierre Renaud.
Ah non,
merci.
Mais...
À bientôt.
Vous venez d'entendre Promenade et Flâneries au domaine de poésie dirigé par Pascal Payen-Penzeller. Émission préenregistrée le 17 avril 2026 et diffusée sur Radio Courtoisie vendredi 3 juillet de 10h à 11h et réalisée par Claudia. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre. Rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de cette émission. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris.